Tu as été un grand vaudois, c'est en ces termes que Pascal Broulis, président du gouvernement, a rendu hommage à Jean-Claude Mermoux. Ils étaient plus de 1000 aujourd'hui en la cathédrale de Lausanne pour dire adieu au défunt conseiller d'État. Novak Djokovic et Rafael Nadal se disputent en ce moment le titre à l'US Open. Dans quelques instants, nous rejoindrons Laurence Bolomé, notre envoyé spécial à New York. Les bourses européennes ont décroché à la baisse, elles craignent une faillite de la Grèce. Vous entendrez l'analyse d'un économiste. Pour lui, la Grèce sera en défaut de paiement, il ne manque que la date. Il y aura des bancs de brouillard demain matin sur le plateau. Sinon, la journée sera largement ensoleillée en Suisse romande. Il fera jusqu'à 27 degrés l'après-midi. Bulletin météo complet en fin de journal. Bonsoir. Les obsèques du conseiller d'État vaudois Jean-Claude Mermoux ont eu lieu cet après-midi en la cathédrale de Lausanne. Plus de 1000 personnes étaient présentes pour rendre un dernier hommage au ministre de l'Économie décédé la semaine passée des suites d'un accident cardiovasculaire. Il était âgé de 59 ans. Ses funérailles étaient solennelles. Les milices vaudoises et les huissiers portaient leur tenue de parade. Il y avait de nombreuses personnalités. Le conseiller fédéral Uli Maurer notamment. Ariane Asler a recueilli un extrait du discours du président du Conseil d'État, Pascal Broulis.
C'est avec une profonde tristesse que nous prenons congé de lui aujourd'hui. Une façon bien différente de celle que nous aurions souhaité, sans la franchise de son regard, la chaleur de sa poignée de main, la tranquille assurance de pouvoir encore compter sur lui. C'est avec gratitude, émotion et respect que nous t'accompagnons aujourd'hui une dernière fois. Tu as fait résonner haut et fort le beau serment de l'élu qui s'engage à toujours avoir devant les yeux le bien commun. Tu as été un grand vaudois, un éminent serviteur de l'État. Nous t'en remercions infiniment, nous t'en sommes profondément reconnaissants et nous nous souviendrons de toi. Adieu Jean-Claude.
Les jeunes handicapés doivent avoir accès à la formation professionnelle sans obstacle supplémentaire. Une pétition munie de plus de 100 000 signatures a été déposée à la chancellerie fédérale pour faire pression sur les pouvoirs publics. La finale de l'US Open de tennis se dispute en ce moment. Elle met en scène le Serbe Novak Djokovic, numéro 1 mondial, et l'Espagnol Rafael Nadal, numéro 2. Après un peu plus d'un quart d'heure de jeu, est-ce qu'une tendance se dessine, Laurence Bolomé?
Eh bien, une tendance aux longs échanges, aux points gagnants, une tendance à la grande concentration de l'un et l'autre joueur. En fait, Rafael Nadal a remporté son premier jeu de service avant de prendre d'emblée le service de son adversaire. Donc on se disait que peut-être à 2-0, déjà il avait pris une petite option sur un premier set. Vous savez que la mise en jeu est très importante, notamment dans le tennis masculin. Et juste après, eh bien, c'est Novak Djokovic qui réussissait à équilibrer. Il est donc mené Novak Djokovic 2-1. C'est à lui de servir actuellement pour éventuellement égaliser à 2 partout. La partie pourrait être longue car les échanges sont longs. Et on sent que les deux joueurs ont évidemment des enjeux tellement importants. Pour Rafael Nadal, ce serait l'occasion de mettre fin à 5 victoires de Novak Djokovic contre lui, et notamment sur terre battue. Et puis Novak Djokovic, eh bien, il n'a jamais remporté l'US Open. Ce serait l'occasion de le remporter pour la première fois après une saison magnifique.
Laurence Bolomé, on vous retrouve dans les informations de 23h et de minuit. La bataille continue concernant la taxation des bonus des managers. Contrairement au national, le Conseil des États a décidé aujourd'hui, par 27 voix contre 13, de camper sur ses positions et d'imposer les rémunérations dépassant 3 millions de francs. Le Conseil national ne veut pas d'organe de médiation dans la loi sur la recherche sur l'être humain. La Chambre du peuple a refusé aujourd'hui cette innovation proposée par le Conseil des États. Présentée comme des lieux d'écoute entre patients, médecins et scientifiques par une minorité rose-verte, ces organes de médiation ont rencontré une forte opposition, notamment de l'UDC. Pourtant, la conseillère nationale UDC vaudoise Alice Glauser y était favorable. Elle l'explique à Pierre Yenny.
J'étais tout à fait d'accord à ces organes de médiation parce qu'en fait, je trouvais que c'était des organes libres de toute contrainte et puis en plus, qui pouvaient représenter plusieurs cantons aussi. Donc, c'était pas un énorme paquet administratif. Mais en fait, ce qui a, d'après mon avis, fait tourner la balance, surtout peut-être dans mon parti, c'est une nouvelle place étatique. On crée de nouveau un poste qui va donner lieu à de nouveaux frais et tout ça. La plupart estiment que c'est une affaire privée, s'adresser peut-être à une assurance, s'adresser à une protection juridique. C'est ça qui n'a pas passé. Il faut laisser ça au privé.
Les bourses sont une nouvelle fois décrochées. Aujourd'hui, la bourse suisse a fini en baisse de 2,35%, en phase avec Francfort, moins 2,27%, Paris a dévissé de 4%, Londres de 1,63%, Milan de 3,8% et Lisbonne de 4,2%. Les bourses européennes sont apeurées par l'hypothèse d'une faillite de la Grèce. Jacques Sapir est économiste, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Philippe Reval lui a demandé si la faillite de la Grèce était inéluctable.
Je pense que l'on va effectivement vers un défaut de la Grèce. Alors maintenant, est-ce que ce défaut va survenir dans l'immédiat? Est-ce qu'il surviendra plutôt vers le mois d'octobre ou plutôt vers le mois de novembre? On n'en sait encore rien. Tout cela va dépendre en fait de toute une série de jeux politiques et diplomatiques. Mais aujourd'hui, il est très clair que l'Allemagne ne veut plus payer pour la Grèce et elle sait que c'est elle qui devra payer l'essentiel des sommes que la Grèce devrait recevoir. Elles ont été calculées comme étant de 340 à 380 milliards d'ici 2018. S'il y a le défaut ou la faillite d'un pays, ce pays devra dévaluer, sortir de l'euro, recréer sa monnaie. Alors ce n'est pas que la Grèce soit aussi importante que cela par rapport à la zone euro, mais néanmoins, avec la faillite de la Grèce, on aura une spéculation extrêmement forte contre le Portugal, contre l'Irlande, contre l'Espagne et contre l'Italie, et de proche en proche, nous verrons ces pays être obligés eux aussi, soit de sortir de l'euro, soit de se déclarer dans l'incapacité de rembourser leurs dettes, soit les deux.
La Cour des comptes genevoise a présenté aujourd'hui son rapport d'activité pour l'année 2010-2011, l'occasion de faire un bilan global depuis sa création en 2007. Elle a proposé pour 38 millions de francs d'économies. Les trois quarts ont été réalisés et ses recommandations suivies à 77%. Certaines sont toutefois restées lettres mortes, comme la planification des collaborateurs de la police. Ils accumulent en effet les heures supplémentaires, ce qui pourrait entraîner des demandes de crédit supplémentaires de l'ordre de 14 millions de francs. Micheline Calmiret s'est entretenue aujourd'hui avec la conseillère d'État genevoise Isabelle Rocha lors d'une séance extraordinaire consacrée à la sécurité à Genève. Aucune déclaration n'a été faite à l'issue de la réunion. La Confédération et le canton se sont limités à un maigre communiqué. Tatiana Odo.
La séance de travail à peine terminée, les personnalités qui y ont participé sont parties sans faire la moindre déclaration. Voilà qui pourrait laisser penser qu'elle s'est mal déroulée ou que la Confédération a tiré les oreilles de Genève. Pas du tout, rectifie Laurent Paoliello, porte-parole d'Isabelle Rocha. La séance a été très constructive, dit-il. Son objectif était d'exposer à Micheline Calmiret et à ses services la situation sécuritaire de Genève dans sa globalité, les besoins et les projets à moyen et long terme. Bref, montrer l'ampleur du travail accompli. Une vision générale qui, semble-t-il, manquait à la Confédération, focalisée sur la problématique de la Genève internationale. Les récents cambriolages d'ambassade et l'agression présumée d'un fils de diplomate ont en effet inquiété Berne et au-delà. Mais cette phrase tirée du communiqué nous apprend que les diplomates sont des habitants du canton au même titre que les autres. Peut-être une manière de dire que les autorités du canton prennent la sécurité des internationaux très au sérieux, mais qu'elles ne le font pas au détriment des Genevois.
Après le dépôt des listes, aujourd'hui dans le Jura, il y a 25 candidats aux chambres fédérales. La chancellerie cantonale a enregistré au total 13 listes pour le national et les États. Même si l'on voit mal actuellement les 4 sièges échappés au PDC et au PS, les deux poids lourds de la politique cantonale, les autres formations vont tout de même tenter leur chance, ce qui avait bien réussi à l'UDC il y a 4 ans grâce au coup de pouce du PLR Gaël Klein.
16 au national, 9 aux États, le nombre de candidats jurassiens aux chambres fédérales est dans la moyenne des dernières législatures. Les 4 sièges à repourvoir suscitent toujours autant d'appétit. Aussi bien le PDC que le PS et l'UDC présentent chacun 6 candidats, 4 au national et 2 aux États. On trouve d'ailleurs respectivement les 3 sortants, Anne Sédoux-Christ, Claude Hesch et Dominique Bettig. Le PLR présente 4 candidats, 2 dans chacune des chambres. Et pour la première fois, les Verts sont dans la partie avec 2 candidats au national. Une surprise enfin, la candidature de Pierre Feulpin, celui-là même qui avait tenté en vain de décrocher un siège au gouvernement jurassien en 1990. 20 ans après, sous l'étiquette soutien des citoyens jurassiens, il est candidat au Conseil des États. Il entend, dit-il, représenter les plus démunis. On retiendra aussi l'absence du PCSI en pleine refonte et du Parti évangélique qui pensait participer au fédéral. Mais la section jurassienne ne sera officiellement constituée que le mois prochain.
Une grange de 900 mètres carrés a été détruite par le feu aujourd'hui à Balègue dans le canton de Vaud. Elle abritait des machines et des tonnes de fourrage, mais pas de bétail. Personne n'a été blessé. La cause du sinistre n'est pas encore connue. La bourse suisse a donc chuté. Aujourd'hui, le SMI a lâché 2,35%. À New York, la bourse a clôturé en légère hausse. Le Dow Jones a progressé de 0,63%. La météo, Sébastien Dupéret.
Une crête de haute pression s'est installée sur la Suisse, garantissant un temps généralement stable jusqu'à vendredi. Quelques faibles perturbations essentiellement nuageuses pourront tout de même approcher le pays, notamment demain. En matinée, le temps sera encore assez ensoleillé, même si quelques bancs de brouillard stagneront sur le plateau. Sur le nord du pays, il faudra également compter avec quelques passages nuageux. Dans l'après-midi, nous repasserons à un temps bien ensoleillé, malgré quelques cumulus sur les reliefs. Puis dans la nuit, quelques gouttes ne sont pas exclues sur le Jura et la Joie. À l'aube, le thermomètre affichera entre 12 et 15 degrés, et dans l'après-midi, il oscillera entre 24 et 27 degrés. Mercredi, le ciel sera encore un peu nuageux en matinée, surtout au nord du pays. Ensuite, les conditions s'amélioreront et nous passerons un temps bien ensoleillé sur la majeure partie des régions. Les maxima avoisineront les 22 à 25 degrés. Ces conditions généralement stables avec des températures très douces pour la saison se maintiendront jusqu'à vendredi selon Météo Suisse.
La météo avec le comptoir suisse, le rendez-vous de la ville et de la campagne à Lausanne, comptoir.ch.
Pas mal de SMS qui nous sont arrivés à la ligne de cœur à propos du thème de la soirée, le suicide et la prévention du suicide, puisque Olivier Maronda, vous êtes actif dans l'association Résiste qui s'occupe de ça et vous êtes psychologue. J'en lis quelques-uns qui n'appelleront pas forcément une